Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Les Oreilles Loin du Front. On va se tourner vers Guillaume qui nous rapporte les dernières nouvelles du colonialisme.
Et donc c'était en fait une rencontre organisée par la librairie Quilombo avec deux auteurs qui ont contribué à ce recueil de nouvelles autour du colonialisme. Étaient présents Sayouba Traoré, qui est écrivain burkinabé. Il est connu pour avoir écrit notamment « Loin de mon village, c'est la brousse ». Et Benjamin C.N., rwandais, qui est l'auteur de « Le feu sous la soutane ». Et donc, qui sont un peu revenus sur leur texte et sur aussi tout le débat autour du colonialisme aussi, dans la société française, autour notamment de la question de la loi du 23 février 2005.
Donc ce soir, le débat, c'est autour de cet ouvrage-là, là, qui est sur la table, « Dernière nouvelle du colonialisme », qui est un ouvrage collectif, qui a été écrit à plusieurs mains par des auteurs souvent d'origine africaine ou d'origine antillaise, et par contre des auteurs soit qui vivent aux Antilles, soit qui vivent en Afrique, ou soit qui vivent ici en Europe et plus souvent en France. Alors ce soir, on a Sayouba Traoré et Benjamin C.N. Peut-être qu'on va vous laisser présenter un peu le contexte du bouquin, pourquoi vous avez souhaité, tout à l'heure tu me parlais un peu de la genèse du livre, Sayouba.
C'est-à-dire qu'on s'était dit que on était trop silencieux et qu'il quand même il fallait qu'on joue notre partition de toute cette affaire-là. Et moi j'étais plus loin et je disais que on en avait, en tout cas pour ce qui me concernait, j'en avais marre d'être bien élevé. Je pense que c'est notre bonne éducation qui nous joue des tours. Moi j'ai décidé d'être mal poli. Et d'être mal poli, c'est dire ce que les gens ne sont pas prêts à entendre, même si l'essentiel est que ce que je dis soit vrai. Donc on s'est réunis, on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On voit chacun de nous travailler de son côté. Et la meilleure formule, ça a été un recueil de nouvelles, parce que ça pouvait rassembler tout le monde d'un point de vue éditorial. C'était le plus accessible. Et est tombée cette loi de février qui parlait du rôle positif de la colonisation. Dans un premier temps, moi j'étais surpris par le silence qu'il y a eu, parce que il y a eu février, mars, avril, mai, juin, juillet. Personne n'a rien dit. Alors je me suis dit, peut-être les gens ne lisent pas ce qui se vote à l'Assemblée nationale. Puis j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. J'ai fait une chronique que j'ai envoyée à plusieurs publications, c'est pas sorti. Libération a gardé ça sous le coude et l'a sorti en décembre, alors que je l'avais fait en juin. Et il y a eu un barouf tout. J'ai eu un courrier abondant, et ceci, pas cela. Et après, on s'est dit, quand même, c'est quand même bizarre de se silencier face à un truc aussi énorme. Moi, j'en ai parlé à Jean-Luc, on a recontacté tous les auteurs, et Vandaya a dit oui, j'en suis. Et là, on n'a pas imposé un thème, on a dit compte tenu de l'actualité. Et avec la pétition des professeurs là, qui a circulé, il y a eu tout un débat là-dessus. Moi, personnellement, je dis que je remercie les députés d'avoir voté cette loi. Je m'explique. Parce que avant ça, si vous expliquiez dans un débat, dans un dîner ou n'importe où, si vous parliez d'Afrique, de l'esclavage, de la colonisation, tout ça, on vous regardait comme un mauvais coucheur. On vous disait, c'est des vieilleries, ça, pourquoi vous en parlez? Alors on s'est dit, quand même, quand la France célèbre le millénaire de UKP, ou je ne sais pas qui, là, de Clovis, et chaque année, il y a une commémoration pour Dieu sait quoi, de Balzac, de je ne sais pas qui. Et si on commémore des trucs de 1000 ans, dit que ce qui s'est passé en 1960, c'est des vieilleries, ça pose quand même problème, quoi. Et quand on parlait de l'esclavage, on dit, oui, mais c'est pas pareil. Alors c'est pas pareil, ça veut dire, bon, tu vas pas confondre quoi. Tu vas pas confondre une tuerie qui s'est passée dans le monde civilisé et des choses qui se sont passées chez ces gens-là. Tu vas pas confondre, c'est pas pareil. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi je le reçois. À partir de ce débat, il est devenu légitime de parler de ces choses-là. Moi, je travaille pour Radio France Internationale. Je n'ai plus peur d'expliquer à l'antenne que si l'Afrique est dans cet état, ça tient à une succession de mots. D'abord, on est venu pour nous civiliser, on nous a colonisés, après on a voulu nous développer, puis après il y a eu l'aide au développement ou ce qui s'ensuit, et après il y a la dette. On ne sait pas pourquoi je me trouve endetté alors que je n'ai plus l'argent de personne. Et après on parle de mondialisation. Donc l'Afrique n'a eu que des amis qui lui voulaient du bien. Et voilà pourquoi on est dans cette situation-là. Et moi, je n'ai plus peur de dire ça, et c'est devenu légitime de le dire. Moi, on m'a dit, pourquoi tu parles de ces choses? J'ai dit, mais c'est très simple. Ce sont les députés qui ont tout dit sur eux d'en parler à l'Assemblée nationale. Et je pense que toi et moi, nous ne sommes pas plus légitimes que ces élus qui sont à l'Assemblée nationale. S'ils en ont parlé, si même le président de la République a chargé le Conseil constitutionnel de trouver les moyens d'abroger cette loi, et ces personnalités quand même sont plus autorisées que toi et moi pour en parler. Si eux, ils en ont parlé, moi, ça me donne une légitimité pour en parler. Et j'en suis là. Je ne sais pas comment Benjamin l'a reçu, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et si je pouvais trouver le député qui a initié cette loi, je suis prêt à cotiser pour qu'on lui construise une statue. Parce que c'est un bienfaiteur, en tout cas pour ce qui me concerne. Sans le vouloir peut-être, mais il nous a autorisé maintenant à dire ce que nous pensions.
Et non seulement il nous a autorisé de dire ce que nous pensions, mais ils ont expliqué en partie les mots qu'on voit qui sont dus à l'immigration et au sous-développement de l'Afrique, et ce qui nous pousse à s'exiler presque, enfin s'exiler, se couper de l'Afrique. Et le fait même qu'on a en fait c'était très embarrassant cette histoire de l'abrogation de cette loi, parce que on avait l'air de faire un pas en avant et en arrière, mais ne sachant quoi faire, et il a fallu que le président intervienne. Mais c'était vraiment embarrassant, parce que moi je lis, donc je suis bilingue, anglophone et francophone, donc je lis la presse anglophone à l'étranger, et ils sont marrés, les anglo-saxons, en disant c'est vraiment une folie de s'imaginer les bienfaits de la colonisation, surtout sachant comment on a décolonisé l'Afrique avec toutes les guerres coloniales et les suites du sous-développement qui est dû quand même à des rapports néocoloniaux que la France a toujours maintenu et maintient toujours avec une certaine partie de l'Afrique. Et c'était à la fois embarrassant, mais une libération, parce que moi ça me faisait rire. Je me moquais de tout le monde, enfin je me moquais de tout à ce, en commençant par les intellectuels qui ont commencé. Je ne vais pas parler de Finkielkamp, mais quand les gens se réjouissaient du fait que on a civilisé, christianisé l'Afrique. Je viens du Rwanda, et les méfaits de la colonisation au Rwanda sont vraiment l'extrême à quoi on peut arriver. Le Rwanda est le pays le plus catholique de l'Afrique. Enfin, était supposé le plus catholique de l'Afrique. Parce qu'il y a 99% de gens évangélisés. Et donc, on s'est trouvé, après 100 ans d'évangélisation, avec un peuple qui avait inventé des stéréotypes presque sur des bases raciales, et ça a conduit à un génocide au XXe siècle. Et c'est une chose qui m'a marqué. Et cette loi, pour moi, c'était tourner le couteau dans la plaie, parce que ça m'a fait quelque chose. Et surtout que la France était très, très impliquée dans ce qui s'est passé. Donc, la France avait formé l'armée, le gouvernement Hutu, et fourni des armes, et jusqu'à fournir des machettes. Et les autorités disent toujours, oui, ce sont les Rwandais qui ont tourné les machettes, mais bien sûr, mais il faut voir d'où venaient les machettes. Et ça m'a beaucoup marqué ce débat qu'il y a eu autour de cette loi. Et,
parce que c'est vrai qu'il y a un glissement, parce qu'on m'a fait remarquer qu'il y a un glissement, parce que la loi parle de colonisation et nous parlons du colonialisme. Et moi j'ai dit entre le taureau et le bœuf, moi je ne fais pas de différence, parce que c'est chipoté sur les mots. Et parce que si vous considérez les mots du colonialisme, le mot utilisé par le colonisateur, et ce n'est pas en faveur de l'Afrique. Même dans les luttes de libération, ce n'est pas l'Afrique qui s'est décolonisée. On l'a décolonisée. Parce qu'il fallait que l'Afrique reste toujours dans le rôle de l'acteur passif. On l'a colonisée, puis on l'a décolonisée. On parle de la décolonisation. Décolonisation, c'est quoi? Ce n'est pas la libération. C'est le colonialiste qui a décidé de décoloniser. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Même dans cette affaire, on reste des grands enfants qu'on a bien voulu décoloniser. Et tout le vocabulaire colonial est en rapport. Parce que moi, ma nouvelle, paradoxalement, parle d'un fait réel, même si je l'ai arrangé. Parce que moi, j'étais gamin chez moi. Moi, je suis né 5 ans avant qu'on ne nous décolonise. Bon, je voyais les choses même si je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et puis immédiatement après, on a décidé qu'il fallait qu'on bénéficie de l'assistance technique de la coopération française, je ne sais pas quoi. Dans mon village, ça s'est traduit par quoi? On a vu venir un escadron de gendarmerie qui est venu pour former les forces de police, avec une caserne et tout. Et pour moi, c'est l'une des séquelles les plus graves de la colonisation, le militarisme. Quand vous arrivez au Burkina Faso, il n'y a pas une seule nation de toutes les nationalités qui forment le Burkina Faso actuellement où on vous dira, traditionnellement, nous avions une caserne. Ça n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était. Dire que voilà, c'est cette maison-là et que les militaires habitent, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de force de police. Pour la simple raison qu'à l'issue de l'initiation, et dans le bois sacré, on apprenait aux garçons le métier des armes. Et quand il y avait une attaque, tout le monde allait à la bataille. Et une fois la bataille finie, on retournait au champ. On nous a donné le militarisme napoléonien. Et on n'a pas fini d'en payer le prix. Moi, j'ai essayé de recenser les coups d'État. En 1980, on était à 111. 111 coups d'État. Nos armées ont été forgées, ce n'étaient pas des armées républicaines, et ce ne sont toujours pas des armées républicaines, elles ont été forgées contre leur population. Pour la simple raison que Vous mettez une armée pour défendre un pays dont 45% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, où il y a 95% d'analphabètes, où il y a 85% de la population qui vit à la campagne, dans le monde rural. Et cette armée va servir à quoi? À attaquer un pays qui est aussi pauvre que lui, pour faire quoi? Elle sert strictement à rien. Mieux, elle mobilise 46% du budget national, qui serait mieux employé ailleurs. Quand on est coincé dans un pays africain, on ne comprend pas cette militarisation de la société. Mais quand on a la chance ou le malheur de quitter l'Afrique, parce que l'exil c'est jamais choisi, même si Sarkozy parle d'immigration choisie, il faut qu'on aille lui dire que personne ne choisit de quitter les siens. Personne n'a jamais choisi de quitter les siens. Mais lui, il trouve qu'il y a une immigration choisie. Peut-être que quand on est et au ministère de l'Intérieur, on voit le monde autrement. Je ne sais pas. Peut-être que ça change le point de vue selon qu'on est puissant ou pas. Mais en tout cas, personne ne quitte celui volontairement, à moins d'être un touriste. Et si nous sommes des touristes, nous sommes quand même des touristes bien singuliers. S'il y a tous ces mots-là, c'est à cause de la militarisation. Et on nous a fait un cadeau empoisonné. Et on peut citer des exemples comme ça. Que l'on doit à la colonisation.
Oui, non, mais cette militarisation, en fait, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. L'armée française était carrément présente de 90 à 93, mais ça a continué même en 94, et puis de 94. Fin juillet jusqu'en fin août.
Benjamin, si je dois te tranquilliser, elle n'est jamais partie. Parce que c'est elle qui a fait Goma, c'est elle qui a fait tout ça. Et c'est elle qui continue. Elle n'est jamais partie.
Et ce qui est. Donc, dans l'histoire que je raconte, je parle des contrôles, mais au Rwanda, il y avait une carte d'identité avec mention ethnique. Et donc, on était Hutu ou Tutsi sur la carte.
Mais au Burkina, c'était écrit race.
Oui, c'est ça.
La race, on devait dire si on était. Oui. Et c'est Kizerbo qui a fait cesser ça. Parce que quand on lui a dit de remplir pour avoir ses papiers, et à race, il a mis noir. Alors le policier a dit non, je te demande ta race. Il a dit oui, j'ai mis ma race, je suis noir. Mais dans leur entendement, race, c'était j'étais moi aussi.
Oui, oui.
Ou Djoula, c'est comme ça qu'ils comprenaient race.
Et ce qui est grave, c'est qu'il y a même des documents, parce que ça passait à la télévision et tout ça, on voyait les parents français contrôler les gens, parce qu'on arrêtait, comme la rébellion était Tutsi, on arrêtait les Tutsis civils. Et sur leur carte d'identité, et ça quand j'ai pensé à ces émeutes avec les contrôles d'identité, mais il y avait les contrôles partout, hein, il y a toujours des contrôles. Il y a des contrôles dans Paris, de partout. Dès qu'on est né basanais ou on a une autre origine. Et c'est une chose qui me trouble. Moi, chaque fois que je vois un contrôle, je pense au Rwanda. Et c'était des gens contrôlés, mais pour être tués.
Les Tutsis, moi, j'ai exercé ma curiosité d'historien dans cette histoire. Les Tutsis, les Hutus ont la même langue, ont vécu dans le même territoire, ont le même roi, ont la même histoire, ont la même projection de l'avenir, et le même Dieu. Ce sont les anthropologues belges qui sont allés, qui ont créé deux ethnies de façon totalement artificielle. Et le résultat, on l'a vu. Tout simplement parce qu'ils ont, selon les trucs ratios de l'époque, il est gras, il est lancé, il a nul nez fin, il est civilisé, il est ceci ou pas cela. L'autre est petit, une grosse tête, le nez épaté, des traits négroïdes. Donc il est sauvage. Et c'est comme ça que ça a été fait.
Tout à fait.
Et ça, vous retrouvez ça partout où le colonisateur s'est arrangé toujours avec une minorité pour gouverner les autres. Ce qui fait qu'après la décolonisation, cette minorité se sentait à l'étroit. Bon, les harkis, c'est très caricatural, mais ça s'est passé partout comme ça. Partout, ça a été comme ça. divisé pour régner, ou ça fait que le jour où l'armée française fait ce partage, et on dit aux minorités, bon ben, il faut qu'on solde nos comptes. Et comme on ne sait pas solder ça d'une façon pacifique, parce que les rancœurs accumulées sont énormes, et on passe à l'acte.
Et il y en a beaucoup qui sont réfugiés ici, hein, donc les têtes pensantes, enfin une petite minorité, ont été en jugement quand même dans un tribunal pénal international qui est basé en Tanzanie. Mais il y a quand même beaucoup qui sont encore cachés ici. Et mon dernier roman qui s'appelle Le Faute sous la soutane, c'est l'histoire d'un prêtre. Il a été condamné comme par hasard hier. Le Rwanda l'a condamné à perpétuité. Et c'est un prêtre qui... Oui, il s'appelle Wenceslas Munyeshaka. Et il est à Gisors. Il dit la messe tous les dimanches. Tous les dimanches. Je me dis, mais c'est fou. C'est un homme, donc les actes les plus barbares, mais il a profité des plus. Donc son église, du jour au lendemain, s'était remplie de 2000 personnes. Et il choisissait les plus belles femmes qu'il emmenait dans son presbytère pour les protéger soi-disant, mais c'était pour les violer. Il en avait tout un harem qu'il a constitué. Mais pire que ça, les Nations Unies évacuaient au fur et à mesure à l'église pour essayer de sauver le plus grand nombre possible de toutes ces réfugiés là-dedans. Et ils composaient des listes des gens qu'on devait évacuer selon les destinations. Et ils donnaient ces listes aux miliciens. Donc les miliciens revenaient, faisaient l'appel et massacraient les gens. Donc avec sa connivence. Et c'est un homme, donc c'est un prêtre. Hein. Et il se baladait avec un gilet pare-balles, un pistolet à la ceinture, et il était. Oui. Donc c'est une histoire ignoble. Et le fait même que la France ne veuille pas soit le juger ou au moins l'extrader montre qu'il y a toujours une complicité avec. Les criminels, des salauds, comme je dis.
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on est toujours avec l'émission Les Oreilles Loin du Front. Guillaume.
Oui, nous sommes toujours en train d'écouter la rencontre qui s'est déroulée vendredi dernier au CICP autour de l'ouvrage Dernières nouvelles du colonialisme et donc paru aux éditions Vent d'ailleurs, qui sont un recueil de nouvelles autour de la question du colonialisme par des auteurs africains. Et là, nous entendons Sayouba Traoré et Benjamin CN.
J'ai lu des textes d'administrateurs militaires qui ont été plus loin en disant que ces gens, en parlant de Lubangui Shari, le gars il disait ces gens sont plus civilisés que nous, ils n'ont nullement besoin de notre civilisation. Et il y en a un qui a écrit, qui était dans l'armée de FEDER, l'armée d'Afrique de FEDER, qui a fait des monographies qui dressaient des situations en disant sur le plan spirituel, ces gens sont à mille ans en avance sur nous, ils n'ont pas besoin de nous. Mais ça n'empêche que ces gens ont fait des conquêtes, ont constitué le régiment des tireurs sénégalais, et dont la tristement célèbre colonne voulait Chalmone, qui a ravagé l'Afrique jusqu'au lac Tchad, à tel point qu'on était obligé d'envoyer une colonne militaire française avec ordre d'abattre les officiers français, parce qu'ils avaient fait des exactions. Je ne sais pas si tout le monde a vu le film sur la Sarawinya au Niger. C'est la colonne voulait Chanoine c'était quelque chose de terrible. Et ça n'a pas fait pour le prestige de la France dans ces contrées-là. Si le Nigeria a basculé dans le camp anglophone, c'est justement à cause de ces exactions de troupes coloniales qui ont horrifié toutes les populations. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire alliance avec ces gens. C'est pas possible. Et ça a été un aveu. L'armée française était obligée de dépêcher quelqu'un, rattrapez-les et anéantissez-moi cette colonne. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça n'empêche qu'ils ont écrit, eux-mêmes ont reconnu que ce qu'on avait dit en France, c'était pas vrai, c'était des prétextes. Mais n'empêche qu'ils ont mis, comme de bons petits soldats, ils ont appliqué les ordres qu'on leur donnait, à savoir décimer des populations, brûler des cases. Et quand des militaires français s'amusent à jeter des bébés et jouer au bilboquet avec eux sur la baïonnette, on ne peut pas s'attendre à ce que ça grandisse le prestige de la France dans ces contrées-là. Mais n'empêche qu'ils ont écrit des textes admirables. Oui, ça oui. Mais ça ne fait pas d'eux des défenseurs des droits de l'homme. Savoyard de Brazza a écrit des choses admirables, mais d'un autre côté, il a fait des actions abominables. Ça aussi, il faut le reconnaître. De même, sur Madagascar, vous avez des gens qui ont écrit des textes fantastiques, mais les colonnes cynophiles de l'armée française avaient ordre de ne pas nourrir les chiens, parce que les chiens devaient se nourrir sur les combattants malgaches. Et c'est ce qui s'est passé. Madame, ce n'est pas nouveau, c'est ce qu'ils ont appliqué aux Antilles contre les nègres marrons. Ils ont appliqué ça aux Antilles. Ça, mais moi, je confesse que je n'ai pas suivi ça vraiment. C'est quand j'ai reçu le Grigri international que je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait encore le père Sassou? Mais ça ne m'étonnait pas de lui, parce que ce n'est pas Sassou qui dirige le Congo, ce ne sont pas les Congolais qui dirigent le Congo. C'est Elf qui dirige le Congo. Et qui fait ce qu'il veut du Congo. Même Chirac n'a rien à dire au Congo, c'est Elf qui fait ce qu'il veut. Et le résultat, on l'a. Et c'est pas nouveau. Au Burkina, on a amené les cendres de Léo Frobenius en disant que c'était un anthropologue. On a fait tout un bataclan et on a inauguré une place de Léo Frobenius à Ouaga. Il y a une rue Léo Frobenius et tout et tout. Mais moi, j'ai eu la curiosité de savoir qui était ce mec. Ben, il a quand même des écrits qui font froid dans le dos.
Comment il s'appelle?
Léo Frobenius. Ce n'est pas nouveau, hein. Savourien de Brazza, c'est parce qu'il est connu. Sinon, comme dit Benjamin, les Africains ont intériorisé. Moi, j'ai enseigné à la faculté à Ouagadougou. J'ai du mal à expliquer à mes étudiants qui préparent des licences, des maîtrises. J'ai du mal à expliquer que le blanc n'est pas plus intelligent que le noir. Ils l'ont intériorisé. Et ils vous le ressortent. Ils disent le blanc. Ils disent c'est prouvé que le blanc est plus intelligent que le noir. J'ai dit, mais c'est prouvé comment? Comment est-ce que c'est prouvé? Parce qu'il y a une idéologie, il y a eu tout un battage, et quand vous voyez comment les médias sont organisés, quand vous voyez comment les facultés sont organisées, les pays du tiers-monde sont là comme... Vous voyez l'oiseau là qui ouvre le bec et puis les autres mettent. C'est comme ça que ça se passe. Parce que nous parlons de la traite qui n'a rien à voir avec l'esclavage. Mais eux parlent d'esclavage. Mais moi, je me rappelle mes cours d'histoire et je sais que l'Empire romain comptait 25% d'esclaves. Je sais que l'esclavage a existé dans tous les pays, dans toutes les civilisations.
Et après, vous voulez des esclaves qui ne parlent pas la même langue pour qu'ils travaillent mieux.
Voilà. Je sais ça.
Oui.
Ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, prendre un bateau à Nantes, aller acheter des gens ou en tuer pour rasier et aller les vendre de l'autre côté pour faire du coton, de la canne à sucre, pour venir enrichir l'Europe, là, c'est nouveau. Et sur 4 siècles et demi...
Avec le code noir...
Le code noir est venu après. Mais encore plus ignoble, madame. Quand il y a eu l'abolition de la traite, qu'est-ce que les esclavagistes ont dit? Nous avons un manque à gagner. Il faut nous payer. Et c'est comme ça que Haïti doit toujours de l'argent à la France, qu'ils payent. Parce qu'ils ont osé déposséder la France de son territoire, de ses esclaves. Donc il y a un manque à gagner que le trésor français a subi. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, l'État haïtien le paye.
Et le dépouille de tout ça en l'ouverture n'est jamais retourné.
Oui. Ouais. Mais si vous regardez la structure de la dette, à partir de 1958, 48, quand on a aboli les travaux forcés, parce qu'on parle de l'esclavage aux Antilles, mais avec les travaux forcés en Afrique. Quand on a aboli les travaux forcés, on a donné l'autonomie de gestion au territoire d'outre-mer. Ce que la France a investi dans le cadre de cette autonomie figure bien dans la dette du tiers-monde. Et pourtant, c'était pour exploiter les colonies à son profit. Mais ça figure bel et bien, et je l'ai vérifié, parce qu'on me l'a dit, j'ai dit non, j'ai vérifié la structure de la dette, et je suis tombé sur le cul. Il n'y a pas de petit profit. Hein. C'est fou, mais c'est comme ça. Le code noir, ça a été une dernière extrémité, et on ne l'a pas fait par plaisir pour aider les Africains, non. On l'a fait parce qu'il y avait une querelle entre négriers. En fait, c'était pour régler le conflit entre négriers qu'on avait fait le code noir. Et il n'y a pas que le code noir. Comment on a colonisé l'Afrique? On a fait la théorie des terres vacantes. Il y a eu des chercheurs français de l'université qui ont développé la théorie de la terre vacante en disant, en allant aux colonies en Afrique, on ne prend la terre de personne, c'est une terre vacante, puisque ces gens n'ont pas pu produire de titre de propriété. On sait très bien que ce sont des pays de tradition orale, où il n'y a pas d'écrit. Alors quand vous arrivez et que vous dites, je veux vos titres de propriété, dans une civilisation où le papier, l'écrit n'existe pas, vous avez la part belle. Mieux, on a dit, on a inventé la théorie de l'histoire des peuples sans histoire. Puisque selon la classification occidentale, la préhistoire court jusqu'à l'invention de l'écriture. Donc, comme l'Afrique n'a pas d'écriture, elle n'est pas encore entrée dans l'histoire. Donc, elle n'a pas d'histoire. Et quand on a dit oui, mais à la tradition orale, ils ont dit, bon, c'est de la proto-histoire. Voilà, c'est toujours... Vous avez toujours des grands savants qui prennent sur eux d'inventer des théories pour justifier. Et même quand on a dit, oui, mais d'accord, mais vous faites la colonisation alors que c'est les Lumières qui ont triomphé en France, c'est quand même la République, c'est des idées généreuses. On a dit, mais oui, il faut faire profiter ces gens des acquis des Lumières. Bon, c'était une façon singulière de nous faire profiter de ça, mais bon, c'était la justification. Donc vous avez toujours des choses qui ressemblent au code noir pour justifier. Et mieux, on vient nous christianiser. Et ça ne leur vient pas à l'esprit qu'on ne l'a pas souhaité, non. Et s'ils résistent, s'ils refusent qu'on les christianise, c'est que c'est des païens. Et il faut y aller maintenant par l'épée. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent que l'islam, c'est une religion violente et qu'il faut condamner. Moi, je ris, mais je dis, et l'islam et la chrétienté en Afrique ont procédé de la même manière. Alors, expliquez-moi où est la différence entre les deux. En tout cas, les deux, sur le terrain que moi je connais, ont procédé de la même manière. Ça, vous vous soumettez, on vous coupe la tête. Parce que c'est fatigant.
Je voulais justement vous poser une question. Pourquoi vous pensez que... Il y a une volonté de la part des députés français de... Quel était l'intérêt, l'enjeu pour eux de... Que vous les... En introduction, vous les remerciez d'avoir voté cette loi, mais eux, qu'est-ce qu'ils espéraient, qu'est-ce qu'ils attendaient en passant une loi comme le rôle positif de la colonisation?
Mais moi, je crois qu'ils ont fait cette loi pour avoir le vote des harkis, notamment à Montpellier. C'était vraiment un truc électoraliste.
Le vote des harkis à...
C'était vraiment un truc électoraliste. Mais ils ne savaient pas que ça allait avoir un tel écho. Moi, je pense que c'était un calcul mesquin au niveau local. Et ils ne se sont pas rendus compte. Parce que, justement, dans certains milieux, on ne comprend pas. Et ça, on vous le dit, hein, on ne comprend pas ce que les Africains nous reprochent. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de si méchant? Ils devraient nous remercier. Pourquoi ils nous en veulent? Moi, on m'a accusé de racisme à rebours.
Ah oui.
J'ai dit, mais je suis d'accord. Il ne faut pas nous nier notre humanité jusqu'à nous nier le droit à la bêtise. On a le droit d'être aussi bête que vous. On a le droit d'être raciste, aussi bête que vous. C'est normal. Mais ça, ils ne comprennent pas. C'est du racisme à rebours. C'est l'anti-France. À ça, on me l'a brandi à plusieurs fois. Alors j'ai dit, mais si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que l'anti-France. Puis après, on a inventé la victimisation. Là, j'ai eu des passes d'armes avec Finkielkraut, parce qu'il a parlé de victimisation. Et moi, j'ai dit, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Si tu me marches sur le pied, je dis que tu m'as marché sur le pied. Et il n'y a pas de victimisation là-dedans. C'est une belle escroquerie pour nous empêcher de parler. Je suis victime, et je lui dis que je suis victime. Si c'est ça la victimisation, je suis totalement d'accord. Ta civilisation a écrabouillé la mienne. Et ce n'est pas de la victimisation que de lui dire. C'est comme ça, et moi, j'y peux rien. Et si tu peux corriger ça, faire en sorte que ça ne soit pas, allons-y. Moi, je ne demande que ça. Mais n'essaie pas de me fermer la gueule. Ça, c'est, ça ne marchera pas. Si vous allez aux Antilles, à Haïti, et que vous parlez de victimisation, vous risquez de recevoir un coup de sagaie. Moi, je pense que s'il m'avait dit ça au Burkina, ça se serait passé autrement. Mais comme on est chez les Sarkozy boy, on peut le dire très tranquillement et sans risque. Parce qu'après, on a subi 6 siècles de violence sous toutes ses formes culturelles, physiques, économiques et tout. Et six siècles, c'est pas 2 jours. Et quand on vient me dire que si je dénonce ça, je fais de la victimisation, je suis totalement d'accord. C'est de la victimisation. J'ai dit qu'ils ont construit des routes, je dis oui. Mais ce n'était pas à mon bénéfice, puisque la route allait de la maison du gouverneur au port, à l'aéroport, de l'usine au port, c'était pour évacuer les richesses. Alors je m'en fous que la maison soit électrifiée si ce n'est pas la mienne, et si j'en bénéficie pas, j'en ai rien à foutre. En Afrique francophone, que je connais, on a eu une chance. C'est que l'anglais a un peu percé. Je m'explique. Les chercheurs anglais se sont ingéniés à démontrer les méfaits de la colonisation française, et les chercheurs français ont montré les méfaits de la colonisation anglaise. Et pour une fois, Fashoda, ça nous a servi. Et vu qu'ils se combattaient, chacun... Bon, en Afrique, on dit que chacun a soulevé la culotte de l'autre. Et on a vu ce qu'il y avait dessous. Heureusement. Mais quand on a commencé à lire un peu les documents anglophones, on s'est dit, mais tiens, il y a une mine là. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir certaines pièces d'archives citées par des auteurs anglais. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, on en avait marre d'apprendre que nos ancêtres étaient des Gaulois. Donc, on a commencé à vouloir se réapproprier notre histoire. Parce que c'est comme un enfant qui se rend compte que ses parents lui ont menti. Parce qu'on est à genoux, on croit que maman sait tout, parce que c'est toujours comme ça. C'est vrai parce que c'est maman qui l'a dit. Alors le jour où on prend maman en flagrant délit de mensonge, on est un peu troublé. Et quand on voit que papa aussi se met à raconter des histoires, donc ça commence à tourner dans la tête, puis on s'affranchit de ça. On se dit, ils sont pas si géniaux que ça. Parce que la Seconde Guerre mondiale y a été pour beaucoup. Parce qu'il y a des anciens combattants qui sont rentrés. Parce que ceux de la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés. Et même quand ils sont rentrés, la colonisation s'installait à peine. La France n'avait pas été occupée comme pendant la Seconde Guerre mondiale. La France n'avait pas joué sa survie pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui. Et quand De Gaulle se battait contre les vichistes en Afrique, le débat franco-français s'est déporté au niveau des colonies. Et quand il a dit « Venez m'aider à me libérer », bon, il est évident que les Africains n'allaient pas aider la France à se libérer et retourner, reprendre l'échelle de la colonisation aussi facilement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, les anciens combattants qui ont été dans les tranchées, qui ont été dans les camps de concentration avec leurs collègues blancs, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas des dieux. Quand on les tire dessus, ils meurent. Quand ils ont mal, ils pleurent, comme nous. Et quand ils vont aux toilettes, ils font la même opération que nous. Ce n'est pas des demi-dieux. Ce n'est même pas des dieux. Dans certaines circonstances, ils ne sont même pas résistants, ils ne sont même pas courageux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis on a traduit la messe du latin au français. Parce que le latin, c'était une langue que même le colonisateur ne comprenait pas. Donc c'était la langue de Dieu par excellence. À partir du moment où on a traduit ça en français, les gens se sont dit, ah ben dis donc. Ainsi donc, c'est une histoire d'une femme qui a eu un gosse de 33 ans et qui est toujours vierge. Il y a quand même un problème quelque part. Ou ils ont perdu la tête, ou ils nous prennent pour des cons. Ils ont brûlé nos statues et dans leur église, ils ont mis une statue à la place. Qui est le fou de l'histoire. Donc on a commencé à se poser des questions. Et vous savez très bien, comme on dit à l'armée, réfléchir, c'est déjà désobéir. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais, vu la façon dont les médias sont organisés aujourd'hui, vu la façon dont la pensée, l'information est structurée dans le monde, l'Occident donne l'image qu'elle veut donner aux autres. Et du même coup, rabaisse les autres. Pourquoi il y a tant d'immigration? Vous allez en Afrique, vous ne verrez pas l'image de Barbès. Vous verrez l'image de la tour Eiffel, là où les mannequins défilent. Là. Vous aurez des belles images de Paris Ville Lumière, et vous allez, mais alors là, vraiment des trucs fantastiques. Quoi. Mais si on vous dit qu'il y a Barbès, il y a des squats, personne ne va vous croire. Parce que on a les offices du tourisme et tout ça ont bombardé les gens avec des images fantastiques. Notre-Dame de Paris, à tout le monde connaît ça. On connaît le menu des grands restaurants parisiens. Donc on dit que tout est fantastique, tout est merveilleux. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu des clochards dans le métro, ah, je pensais que c'était des gens qui faisaient du théâtre. Je le croyais sincèrement. Et j'ai demandé au copain, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, c'était pauvre. Bon, je n'ai pas discuté parce que je venais d'arriver. Mais je me suis dit, quand il me prend pour un demeuré, quoi. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de blanc pauvre. Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'il peut me raconter une sottise pareille? Pour la simple raison que tous les blancs que nous on a vus, c'est des gens qui venaient pour être chef, pour être patron. Oui, Boisnan, c'est pas nouveau. Qui venaient pour être coopérants, où nous, on ne savait pas que les touristes avaient économisé 11 mois pour venir dilapider en 15 jours. Nous, on ne le savait pas. On pensait que c'était leur vie de tous les jours. Donc, pour nous, et puis c'est en France qu'on fabrique quand même la monnaie. C'est là-bas qu'on fabrique l'argent. Donc, comment vous pouvez venir nous dire qu'il y a des blancs pauvres? Personne ne va vous croire. Mais quand on est venu là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas si merveilleux qu'on le dit. Ben, quand vous êtes amené, par exemple, moi j'étais à Goma, quand ça s'est passé, c'est Turquoise ou comment ça s'appelait? Le truc de Balladur. Là.
Ah oui, Turquoise.
Mais c'est très simple, hein. Vous avez le type de l'armée française, là, du service d'information de l'armée, il vient, il prend 1, 2, 3, 4 journalistes, il met dans le fourgon et puis ils s'en vont en opération. Et tout le monde prend l'information auprès de ceux qui ont accompagné l'armée. Ben, l'armée raconte ce qu'elle veut, hein. Vous n'avez pas été sur le terrain parce que vous ne pouvez pas y aller. Ils ont amené qui ils voulaient. Et c'est celui-là qui vous a donné une information. Donc, vous êtes tributaire. Maintenant, l'escroquerie, c'est de ne pas dire comment cette information a été recueillie. Je me rappelle lors de la première guerre du Golfe, quand manifestement l'information était contrôlée, il n'y avait que Marcel Triat qui l'a dit sur la 2, il a fait une chronique, ça ne lui a pas porté bonheur. Il a dit que l'information était contrôlée et que ce qu'on diffusait, il a expliqué les conditions de travail des journalistes. Ben, moi, je ne l'ai plus entendu beaucoup après cette chronique. Ben, vous avez suivi quand même la commission d'enquête parlementaire qui laisse. Non, ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire, une commission d'information sur le Rwanda.
Oui, Nous sommes déjà informés, et que la plupart des autres n'en ont rien à faire.
Non, le problème, c'est qu'une mission d'enquête peut donner lieu à des poursuites et à des sanctions. Or, une mission d'information, ça reste là.
Des assassinats.
Oui, non, mais une mission d'information, ça reste là. Il n'y a pas de suite. Et les commissaires savent jusqu'où n'est pas allé, de façon spontanée. On sait quand même, comme disent les militaires, où il faut garder ses fesses. Mais sinon, pour l'information, je vous assure, moi, à Ouagadougou, j'habite l'autre côté du mur de la présidence. Je ne sais pas ce qui se passe à la présidence de mon pays, mais je peux savoir tout de la moustache de l'Est Valaisa, je peux savoir ce que le pape a mangé à midi, je peux savoir ce que Margaret Thatcher et Chirac se sont dit, ou Mitterrand, je sais tout sur Mazarine, que les Français ne savent pas d'ailleurs, mais moi, dans l'Afrique, je le sais. Je sais tout sur toutes les maîtresses de Mitterrand, y compris la journaliste scandinave. Là. Je sais tout ça. Mais ce qui se passe dans mon pays, à 10 mètres de chez moi, je ne le sais pas. Si je veux le savoir, il faut que je capte RFI. Et RFI me dit ce qu'ils veulent me dire. Et bien voilà. Donc vous voyez, il y a un micmac, quoi. Mais heureusement, on peut compenser quand on manque d'informations, on apprend à l'user. Parce que vous, on vous inonde d'une autre façon. Il y a saturation. Vous avez 2000 radios et 200 télé en même temps. Mais nous, on a une qui est indigente. Alors, on apprend à compenser. Compenser, c'est quoi? J'écoute RFI, puis après j'écoute Radio France, je vais sur la BBC. Et quand la BBC, parce qu'on connaît les horaires, et quand la BBC a fini, je vais sur la Voix de l'Amérique. Il y a un truc de Moscou là, mais je sais que ça passe en même temps que la BBC. Donc j'enregistre celle-là. Donc, en jouant sur ce tableau-là, on arrive à se faire une idée. Mais sinon, on vous dit ce qu'on veut bien vous dire. Des fois, on vous prend vraiment pour un con. Vous savez très bien que ce qu'on vous raconte est invraisemblable, mais vous ne pouvez pas aller vérifier.
Mais par rapport au débat sur la question de la colonisation, du colonialisme, ici, il est présent, même si... Il est présent en Afrique, il y a des...
En Afrique, il est permanent.
Mais sous le même mode, ou parce que nous, c'est quand même...
Il y a des bouffées, il y a des fois où c'est vraiment violent, mais il est permanent. Parce que quand vous vous redécouvrez vous-même, parce qu'il y a une redécouverte de soi. Bon, et je présume que ça va se passer dans les banlieues comme ça. Parce que vous prenez toute une classe d'âge, vous les répétez, et vos parents sont des incapables, ils viennent d'un pays du sauvage... Vos mères sont impossibles, ceci ou pas cela. Il vient que de négatif, il vient de vous. Vous leur répétez ça matin, midi et soir. Ils finissent par l'intérioriser, ils finissent par intérioriser qu'ils sont vraiment incapables, qu'ils sont ceci. Mais il y a un moment où on se rend compte que quand même, tout ne peut pas être la faute du même individu. Est-ce qu'il a des circonstances atténuantes? De cette interrogation, on commence à se redécouvrir. Et quand vous regardez, par exemple, dans les hymnes, dans les chansons des rois sanguinaires sauvages et tout ça, vous dites quand même, s'il a été sanguinaire ou sauvage, peut-être qu'il a tué un ennemi à la saguette, alors que l'autre a jeté une bombe atomique qui a fait 200 000 morts. Bon, je ne sais pas, peut-être que l'autre a des manières un peu frustres, mais en termes de bilan, 10 morts à la machette, 10 000 au canon, le résultat n'est pas sensiblement le même. Donc on essaie de se réapproprier sa culture, son histoire. Moi, je prends toujours le soin de dire, je parle de la France-Afrique. Je ne parle pas des Français. Le malheur, c'est que ces mafieux-là agissent au nom du peuple français. C'est ça le malheur. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper, c'est en votre nom que toutes ces saloperies sont faites. Là où il y a problème, c'est quand on prétend continuer. C'est là où il y a problème avec nous. Alors qu'on prétend continuer. Et c'est ça qui ne va pas.
Alors voilà, c'était donc un reportage de Guillaume sur les dernières nouvelles du colonialisme. C'est un livre qui paraît, tu peux peut-être nous donner les références.
Ouais, donc dernières nouvelles du colonialisme, c'est paru donc en ce moment là aux éditions Vendailleurs. Ça coûte 16 €, et donc ce sont des nouvelles écrites par essentiellement des auteurs africains.
Et puis rappeler que c'était un débat organisé par la librairie Quilombo, qui est une librairie militante, qui se trouve 23 rue Voltaire dans le 11e. Et il y a un site www.librairie-quilombo.org. On a le catalogue là tous dans les mains, puisque tu nous en as ramené une série, Guillaume. C'est pas mal, c'est à peu près ce qu'on a envie d'avoir dans nos bibliothèques.
Ouais, à peu près.
Beaucoup de bouquins très militants, une bonne sélection. Voilà. Merci.